premier rendez-vous aujourd'hui avec le cycle de conférences de l'IRD, Institut de Recherche et de Développement, cycle intitulé « Les îles laboratoires ». Et pour l'heure des îles et des touristes, une conférence de Jean-Christophe Gay, géographe, professeur à l'université Nice Sophia Antipolis, c'est parti.
On va passer une heure à se promener à travers ces îles. Bon, le Pacifique, vous le voyez sur ce document, c'est un immense océan, 170 millions de kilomètres carrés, et seulement 500 000 kilomètres carrés de terre émergée. Donc 170 millions est l'équivalent de la France en terre émergée. Ça vous montre la vacuité de cet océan. À peu près une dizaine de millions d'habitants sur 170 millions de kilomètres carrés. Donc c'est un océan qui est extrêmement vide, avec des îles très connues, les îles des mers du Sud, les îles de la Polynésie, les îles de la Mélanésie, la Micronésie au nord de l'équateur. Deuxième ensemble, plus petit, l'océan Indien, beaucoup moins développé dans sa partie hémisphère nord que hémisphère sud, avec quelques archipels très connus, les Mascareignes, l'archipel des Comores, les Seychelles et les Maldives, donc... Un océan qui comporte aussi des îles sur le plan touristique très importantes, en particulier donc les îles les plus visitées aujourd'hui. Je vous donnerai quelques chiffres, mais on peut déjà le dire, les Maldives viennent de dépasser le million de touristes en 2012. Donc c'est devenu une destination touristique de poids. Troisième ensemble, la Caraïbe, qu'on divise en général entre les petites Antilles donc à l'est et les grandes Antilles au nord-ouest, donc qui ont bénéficié de la proximité du foyer émetteur des États-Unis, de la proximité de la Floride, de la proximité de Miami pour les croisières, dans leur mise en tourisme. Alors, quelques chiffres pour vous donner une idée de l'importance, de l'ampleur du tourisme dans les îles tropicales. En 2012, on vient de dépasser pour la première fois le milliard de touristes internationaux. Donc on est à 1 milliard 40 millions de touristes internationaux et les projections donnent à peu près 1 milliard 8 pour 2025. Donc on est sur une progression extrêmement forte du tourisme international. Il progresse beaucoup moins vite dans les îles et actuellement on a à peu près 40 millions de touristes internationaux qui fréquentent les îles tropicales chaque année. Donc c'est-à-dire à peu près 4% du flux international. Alors, c'est peu, mais en même temps, c'est beaucoup. C'est beaucoup par rapport à la superficie de ces îles, c'est beaucoup par rapport à la population de ces îles. Et c'est aussi une activité importante dans la mesure où le regard, l'imaginaire des populations touristiques potentielles est fortement marqué par les paysages tropicaux, par les images qu'on a des îles tropicales, en particulier donc le plage, soleil, cocotier, lagon bleu turquoise, ça fait partie de notre imaginaire touristique. Donc le pouvoir évocateur, le pouvoir de séduction des îles, il dépasse largement ces 4% de la fréquentation internationale. La destination touristique la plus importante dans ce monde insulaire tropical, ce sont les îles Hawaï. À peu près 7 millions de touristes. 7 millions de touristes, pour vous donner un ordre d'idée, la Côte d'Azur, c'est à peu près 10 millions. L'Indonésie est juste en dessous, 6,5 millions. L'ensemble des îles indonésiennes, donc Porto Rico, à peu près 4 millions. La République dominicaine aussi, autour de 4 millions, 4,5 millions. Les Philippines, 3,5 millions. Cuba, autour de 3 millions. Et ensuite, on a la Jamaïque, les Bahamas et Guam, qui sont entre 1,5 million et 2,5 millions. 1 milliard de touristes internationaux en 2012 et un tourisme qui, aujourd'hui, sur le plan mondial, emploie une personne sur 12. Une personne qui travaille sur 12 l'est par le tourisme. Donc c'est une activité sur le plan économique qui est majeure. En termes de PIB mondial, on est à 9% du PIB. Donc c'est quelque chose de très important. Le tourisme, c'est vraiment du sérieux sur le plan économique. Ça peut paraître une activité amusante, on voit des cocotiers, on voit des gens qui s'amusent, mais c'est très lourd. Le seul chiffre d'affaires du groupe Accor est l'équivalent du PIB de la Nouvelle-Calédonie. Ordre de grandeur, l'Espagne est à 11%, la Grèce est à 18%, la France est en dessous, 6-7%. Dans les îles tropicales, le tourisme est beaucoup plus important. Vous avez de nombreuses îles tropicales où le tourisme est au-delà de 25% du PIB. Par exemple, il est entre 25 et 30% à Maurice ou aux Seychelles. Il est à 30% aux Fidji. Il est au-delà de 50% aux Maldives ou dans les petites Antilles. Même à l'île Maurice, où l'agriculture est importante, eh bien le tourisme est beaucoup plus fort. Et c'est pareil aux Fidji, où on a aussi une activité à canne à sucre qui est forte, mais le tourisme écrase aujourd'hui quasiment tout. Alors il n'y a presque que en France d'outre-mer que le tourisme est faible, de l'ordre de 5% du PIB, voire moins en France d'outre-mer, parce que, ça je l'ai écrit dans plusieurs articles et dans mon bouquin qui s'appelle « Les cocotiers de la France », parce que les destinations ultramarines aujourd'hui ne sont pas compétitives face aux îles environnantes, face à Maurice pour la Réunion, face à la République dominicaine ou à d'autres îles des Antilles pour les départements français d'Amérique, face aux Fidji pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est un thème qui est sur le plan économique d'importance et... En général, en France, le tourisme est une activité qui est sous-estimée en termes d'importance et de recherche. Il faut voir comment les politiques traitent le tourisme sous secrétariat d'État, qu'on accroche à l'artisanat, aux petites et moyennes entreprises. Bon. Donc ce n'est pas du tout le cas dans d'autres pays. Dans d'autres pays, le tourisme est pris au sérieux, y compris en termes de recherche et de formation universitaire, que ce soit en Chine, que ce soit au Brésil, que ce soit dans les pays anglo-saxons. Le tourisme, les tourism studies sont beaucoup plus fortes qu'en France. J'ai choisi un certain angle d'attaque pour travailler sur le sujet. Et mon premier angle d'attaque, ça va être un angle d'attaque géohistorique. C'est-à-dire que je vais essayer de vous montrer comment, à partir d'un lieu qui est un lieu incubateur, qui est Hawaï, comment Hawaï a donné naissance à ce qu'on appelle le Sisandensun, c'est-à-dire la filiation de nos activités Sisandensun aujourd'hui, à partir du cas d'Hawaï, comment ça s'est passé. Et ensuite, on va s'intéresser à un autre facteur qui explique la mise en tourisme, qui est la question de la massification par l'avion de la fréquentation des îles. Et dans un troisième temps, on va s'intéresser à la relation entre tourisme et société locale, par le biais des lieux touristiques. Puisque je suis géographe, mon accroche du thème passe par les lieux. On est très, très sensible au fonctionnement des lieux pour comprendre comment une activité comme le tourisme s'insère dans une société locale. Quand on voit comment est apparu le tourisme, alors le tourisme est apparu, historiquement, est apparu au milieu du XVIIIe siècle. Il est né de la révolution industrielle et il est né à peu près en même temps que le sport. Alors ça ne veut pas dire qu'il y avait des pratiques sportives. Il y avait des pratiques sportives avant l'invention du sport par les Anglais au milieu du XVIIIe siècle. Il y avait des pratiques qui ressemblaient au tourisme avant l'invention du tourisme par les Anglais au milieu du XVIIIe siècle. Mais il y a tout un certain nombre d'éléments, comme un hébergement spécifique pour les touristes qui n'existait pas, comme la mise en place d'une industrie qui s'est faite au fur et à mesure, en particulier par le développement des agences de voyage, etc. Thomas Cook a joué un rôle important. Alors quand on voit comment est apparu le tourisme dans les îles, on se rend compte qu'il y a une première phase qu'on pourrait appeler pré-touristique, où vous avez des voyageurs au statut incertain, hein, qui se rendent dans les îles et qui vont mettre en désir ces îles auprès des populations occidentales. Ces voyageurs peu particuliers, ça peut être des aventuriers, des artistes, des commerçants, des trafiquants, ça peut être des explorateurs, des savants, des médecins. Les peintres, par exemple, vont construire un regard sur les îles. Je pense à Gauguin en particulier. Les savants vont faire connaître les îles par leur description. Les médecins vont, à travers leurs écrits plus ou moins fantaisistes, lancer certains lieux touristiques en disant, voilà, ces lieux ont telle vertu, le climat. Et pour que tout ça ensuite soit transformé en tourisme, il faut qu'il y ait un élément très important, c'est l'accessibilité, mais aussi il faut qu'il y ait véritablement une mise en désir qui se fait, qui va se faire progressivement et qui va naître à Hawaï. On a trois lieux majeurs dans l'évolution en rapport à l'eau que nous avons aujourd'hui, hein, qui sont des lieux incubateurs. Bass, c'est la naissance de la station thermale. Brighton, c'est la naissance du bain dans la mer, ce qu'on appelle le bain à la lame, un bain dans l'eau froide, un bain thérapeutique. Et à partir du milieu du 19e siècle, on se rend compte que le médical va peu à peu disparaître au profit du plaisir. Le plaisir va prendre de plus en plus d'importance dans notre relation à l'eau, avec en particulier un lieu majeur dans cet hédonisme de l'eau, qui est Hawaï. Hawaï, donc, vous voyez, on a situé ça au début du XXe siècle, est un lieu important. Alors, un autre schéma que je veux vous montrer, c'est le rapport au corps, à l'air et au soleil, hein, qui est complémentaire du rapport à l'eau. Là, la question de la couleur de la peau et du bronzage est essentiel. Le bronzage aujourd'hui, c'est la garantie de vacances réussies. Quand vous rentrez au bureau en fin d'été et que vous êtes bronzé, finalement, c'est le signe que vous avez passé de bonnes vacances. Bon, le bronzage, c'est quelque chose qui est apparu très tardivement, puisque jusqu'au début du XXe siècle, on ne bronzait pas. Le bronzage, c'était considéré comme quelque chose de négatif. C'était associé aux travaux des champs, aux prolétaires. Hein. Et ça l'est encore dans certaines sociétés. Au Japon en particulier, vous voyez les Japonaises qui se promènent en ombrelle encore aujourd'hui. Dans les sociétés occidentales, le bronzage est en fait un élément qui apparaît avec Bougainville, le mythe des mers du Sud, Gauguin, Tahiti, et un personnage majeur qui est Jack London, qui au début du XXe siècle va se rendre à plusieurs reprises à Hawaï, va écrire sur Hawaï, et va faire des descriptions à la fois des pratiques hawaïennes de l'eau, je pense en particulier donc, au surf, qui va être décrit par Jack London. Ici on voit donc un guide touristique de 1894, qui vous montre un surfeur sur sa première de couverture, qui vous montre déjà le caractère important de cette activité. Et Jack London va aussi faire la promotion du bronzage, de la beauté des corps polynésiens. Et ce personnage bronzé, musclé, qui se joue de l'eau, qui fait du surf, il va être incarné par un nageur exceptionnel qui est Duke Kahanamoku. Duke Kahanamoku, qui est le premier grand nageur de l'histoire contemporaine. Il a été champion olympique en 1912 et en 1920, 100 mètres nage libre, l'épreuve reine. C'était le nageur le plus rapide de l'époque. Duke Kahanamoku était aussi un surfeur. Et il a fait à peu près le tour de la planète avec son surf lorsqu'il allait en compétition. Il a fait des démonstrations de surf, là où il y avait des vagues, en Californie, en Floride, sur les côtes britanniques. Thank you. Donc, on a une mise en désir des îles au XIXe siècle, l'émergence de nouvelles pratiques au début du XXe siècle, et la troisième étape de la mise en tourisme des îles est l'amélioration de leur accessibilité. Et là, la Deuxième Guerre mondiale va jouer un rôle capital parce que, dans la massification, parce que la Deuxième Guerre mondiale va provoquer une amélioration des progrès de l'aviation tout à fait considérable. On va mettre au point des avions, des bombardiers en particulier, qui vont être ensuite transformés en avions civils. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a un nombre d'aviateurs énorme sur le marché. Donc pour les compagnies aériennes qui se créent, il y a une main-d'œuvre qui n'est pas chère. C'est la naissance des grandes compagnies actuelles. C'est aussi la naissance du charter, 1949. Je le rappelle, le charter, il est né en 1949. C'est déjà un phénomène ancien. Et puis, un troisième élément qui est important, c'est que la tutelle stratégique des États-Unis sur le monde a fait que les États-Unis ont construit des pistes d'aviation partout. Des équipements, des infrastructures qui vont être essentielles pour l'arrivée des avions. Ce sont des équipements extrêmement coûteux. On va en construire dans la Caraïbe. La photo de Sint-Maarten qu'on verra à la fin. Bon, l'aéroport a été fait à ce moment-là, les Fidji aussi, aux Maldives aussi, l'île Maurice aussi. Bon, on va voir se multiplier ces infrastructures. Alors le problème, c'est que les avions ont un rayon d'action assez faible à ce moment-là. Et on va voir, pendant une période assez brève, une quinzaine d'années, se développer ce qu'on appelait les îles escales. C'est-à-dire que vous allez avoir, pour traverser le Pacifique ou traverser l'océan Indien, un certain nombre d'îles qui vont accueillir des avions qui font relâche pour refouler, pour que les passagers se reposent. Et ces îles-là vont prendre une avance sur les autres parce qu'elles vont accueillir les premiers touristes pour une nuit, voire un peu plus, si certains voulaient rester un peu plus longtemps. Maurice était une étape sur la route Australie-Afrique du Sud. On passait par les îles Cocos. Parfois, on passait par les Maldives, Gand, en fait, tout le sud des Maldives, au sud des Maldives, et on redescendait sur Maurice pour ensuite arriver sur l'Afrique du Sud. Et les premiers hôtels internationaux à Maurice, ce sont des hôtels destinés à cette clientèle en transit qui passait une nuit ou qui pouvait rester un peu plus longtemps. Nouvelle étape dans cette évolution de l'accessibilité des îles, l'arrivée à la fin des années 50, du long courrier quadriréacteur, le DC-8 et le 707 vont totalement révolutionner le transport aérien et le tourisme. Une révolution qui est aussi une révolution de l'espace-temps. Vous voyez qu'il fallait 130 heures pour aller de Paris à Nouméa en 1949 en Constellation. Il en faut 22 aujourd'hui. Il fallait 7 ou 8 étapes. Il fallait passer par Tunis, Le Caire, Bassora, Calcutta, etc., Saigon. Aujourd'hui, vous n'avez qu'une étape à Tokyo ou à Séoul. Autre contraction de l'espace, mais cette fois-ci, ce n'est pas l'espace-temps, mais l'espace-coût, le prix du transport. Cette contraction se fait grâce aux jumbo jets, ce qu'on appelait le jumbo jet. On ne les appelle plus des jumbo jets, mais quand ils sont arrivés, c'est-à-dire au début des années 70, on les a appelés de la sorte parce qu'ils étaient très gros. C'est l'arrivée du long courrier gros porteur. On passe de 150 passagers à 400. Et les coûts de transport vont chuter, les prix des billets vont chuter. D'où, par le truchement du 747 ou du DC-10, une démocratisation des îles tropicales. Et cette démocratisation, cette accessibilité facilitée, va modifier complètement l'offre hôtelière. C'est-à-dire que l'offre hôtelière va se caler sur la desserte aérienne. On va calibrer les hôtels en fonction de la taille des avions. Et en plus, les compagnies aériennes vont bien sûr créer des filiales hôtelières. Ici, un exemple d'hôtel, l'hôtel Tahara à Tahiti, qui a été construit à la fin des années 60 en prévision de l'arrivée des gros porteurs, qui est un hôtel qui faisait 200 chambres, qui est aujourd'hui à l'abandon, c'est une friche hôtelière. Le Tara, c'est l'exemple type de ce calibrage de l'hôtellerie en fonction de l'aviation. Donc, une hôtellerie qui se cale et qui devient de plus en plus grande. On passe d'une hôtellerie familiale de quelques dizaines de chambres avant les gros porteurs à une hôtellerie industrialisée dans des groupes importants de plusieurs centaines de chambres. Avec la création de lieux, la création de nouveaux lieux. Sur l'hôtel Tahara, il n'y avait rien. Alors, je vais me faire, au cours de cette conférence, quand même un peu l'avocat du tourisme, parce que le tourisme est extrêmement critiqué, et on y reviendra plus tard. Alors, on a beaucoup dit que le tourisme avait transformé les sociétés et les lieux. Il faut dire que dans les îles, le tourisme, quand même, vient après des phénomènes beaucoup plus funestes. Je pense en particulier dans beaucoup d'îles, on a massacré les populations, on a fait venir des esclaves, on a exploité des populations, on a spolié les terres, on a introduit des microbes qui ont anéanti la majeure partie de la population, ce qu'on appelait le choc microbien. On a christianisé, donc on a totalement transformé les sociétés. Bon, le tourisme, il vient finalement après bien d'autres phénomènes beaucoup plus ravageurs. Si vous voulez, en étant un peu cynique, les îles en ont vu d'autres quand le tourisme arrive. Et c'est vrai que le tourisme transforme les îles, mais elles avaient déjà été beaucoup transformées par, en particulier, la colonisation. Alors, ça pose quand même le problème, bien évidemment, de la rencontre entre le visiteur et le visité. Alors, nous allons essayer maintenant de tâcher de montrer les formes de relations à la société locale qui découlent finalement de la diversité des lieux. Notamment, on va essayer d'appliquer une trame, si vous voulez, en distinguant ce qu'on pourrait appeler les lieux exclusifs, c'est-à-dire les enclaves touristiques, des lieux inclusifs, où il y a une sorte de métissage entre les touristes, la population locale, des personnes qui viennent travailler dans le tourisme. Donc on va faire cette démarche-là. On va s'intéresser, on va commencer d'abord par les lieux touristiques qui minimisent la rencontre. Et là, donc, pour nous, ces lieux touristiques qui minimisent la rencontre, ils sont emblématiquement représentés par les enclaves touristiques. Ce sont des figures véritablement majeures du tourisme mondial. Donc c'est l'hôtel club, c'est le club de vacances, c'est le club Med, c'est l'exterritorialité. Là, on a véritablement un lieu qui est maîtrisé par une société privée dans laquelle s'applique une réglementation spécifique. La population, il n'y a pas de population permanente. Les seules personnes qui y vivent, ce sont les gens qui travaillent dans ce lieu. Là, on a véritablement affaire à une enclave. Et là, finalement, ce qui matérialise le plus aujourd'hui l'enclavement touristique, c'est les Maldives, parce qu'aux Maldives, on ne trouve que des enclaves touristiques. Le principe de développement des Maldives repose sur l'île-hôtel, c'est-à-dire la séparation stricte de la population des touristes. Le principe est le suivant, on a une ville aux Maldives, Malé, à pas confondre avec Mahé qui est aux Seychelles, donc Maldives c'est Malé, et on a des îles-villages. Il y a 1200 îles aux Maldives, il y a 200 îles habitées. Donc il y a 1000 îles inoccupées. Et sur ces 1000 îles inoccupées, aujourd'hui, il y en a 100 qui ont été transformées en îles-hôtels. Donc 100 lieux totalement séparés de la société maldivienne, des lieux qui sont exterritoriaux, qui bénéficient d'un certain nombre de privilèges, de dérogations, Alors, il y a une dérogation qui est tout à fait extraordinaire, c'est que les îles hôtels aux Maldives ne vivent pas à la même heure que le reste des Maldives. Elles ont une heure à elles. Elles sont décalées d'une heure ou deux par rapport à l'heure légale. Donc, quand vous arrivez aux Maldives, on vous dit « il est telle heure à l'aéroport », mais ensuite, vous prenez votre hydravion ou votre bateau rapide pour aller dans l'île, et dans l'île, on vous dira ben, « nous, on est avancé d'une heure ou deux ». Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est une question de gestion de l'hôtel. Les touristes se lèvent tard et aiment bien profiter de la plage le soir. Or, sous les tropiques et a fortiori à l'équateur, il fait jour toute l'année à 6 heures du matin et nuit toute l'année à 6 heures du soir. La solution, c'est de décaler l'heure d'une heure ou deux. Donc vous faites lever le soleil à 8 heures du matin et vous le faites coucher à 8 heures du soir. C'est parfait. À 10 heures du matin, le soleil est encore bas, pas trop fort. Et puis à 18 heures, vous pouvez profiter de la plage jusqu'à 19h30 et manger avec un beau coucher de soleil. Donc bon, on est dans un système extraterritorial qui repose aussi sur l'autorisation de consommer de l'alcool, qui est totalement interdit dans le reste des Maldives. On n'a pas non plus le droit de se promener en maillot de bain dans le reste des Maldives. Autre privilège, dans les îles villages, on manque beaucoup d'eau. Sur les îles hôtels, on a de l'eau parce qu'on a des centrales, des véritables centrales thermiques qui produisent de l'électricité et qui font tourner les usines de dessalement. La flore et la faune sont totalement différentes de ce qu'on trouve dans les îles-villages, parce qu'on a fait venir de la terre, du Sri Lanka ou d'Inde, pour planter des arbres, pour que les fleurs poussent. Et vous avez de véritables jardins botaniques dans les îles hôtels. Ce n'est pas du tout le cas dans les îles-villages, où on voit l'aridité, les difficultés du milieu. Un des points noirs du tourisme qui apparaît particulièrement dans les îles hôtels, c'est les conditions de travail. On sait très bien aujourd'hui qu'un des gros problèmes du tourisme, c'est les conditions de travail. C'est peut-être l'aspect le plus négatif de cette activité. Bas salaire, temps de travail très long, faible progression des carrières. Et là, dans les îles hôtels, on a des conditions particulièrement pénibles, puisqu'on a des personnes qui restent 11 mois d'affilée à travailler 6 jours sur 7 sur ces îles. On ne souhaite pas que les Maldiviennes aient des contacts avec les Occidentaux, donc seuls travaillent les Maldiviens. Donc ils sont séparés de leur famille pendant 11 mois sur 12. Donc vous voyez les problèmes familiaux que ça peut poser, la misère sexuelle que cela entraîne. Donc on a vraiment des conditions très difficiles pour les employés dans ces îles hôtels. Un autre exemple d'enclavement, mais à une échelle plus importante, c'est le cas de Nauru Island Resort qui se trouve au Fidji, qui est une opération privée de très grande ampleur, puisqu'on a totalement déforesté, on a développé un complexe touristique sur la mangrove. On a à la fois toute une série de grands hôtels internationaux, on a un golf international de 18 trous. On est véritablement dans une enclave qui est fermée à la population. Ne peuvent rentrer les Fidjiens qui peuvent rentrer dans cette enclave sont seulement les Fidjiens qui y travaillent. Et finalement, les touristes qui sont dans ces enclaves, qui sont essentiellement des touristes australiens, bon, en général, la moyenne, c'est 6-7 jours de la durée de séjour. Sur 6-7 jours, ils vont sortir de l'enclave un jour. Ils vont soit louer un taxi et faire un tour sur Viti-Levu, soit ils vont prendre une excursion organisée par l'hôtel, soit aussi ils peuvent prendre une excursion en bateau vers l'archipel des Mamanuka, qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres au large. Sinon, ce qu'ils vont voir de la société locale, c'est ce que leur donne à voir le gestionnaire de l'hôtel, c'est-à-dire bon, quelques Fidjiennes qui viennent vendre leur production, et puis bon, parfois c'est du made in China, donc au bord de la piscine, ou des spectacles de danse et de chant qui se produisent le soir. Donc il y a un certain nombre de troupes Fidjiennes qui viennent. Donc on a véritablement un phénomène de fermeture de ces lieux, et finalement une porosité très faible entre la société locale et les touristes. Alors parfois, y a un grain de sable qui vient se mettre dans le dispositif mis en place par les investisseurs internationaux. Alors, je viens de décrire un article qui vient d'être mis en ligne il y a quelques jours sur un cas très, très intéressant qui se trouve lui aussi aux Fidji, qui se trouve sur l'île de Mana. Mais vous connaissez, vous avez probablement vu des paysages des Mamanuka parce que c'est là où a été tourné le film de Robert Zemeckis qui s'appelle « Seul au monde ». Donc, sur cette île de Mana, en fait, on était parti vers la mise en place d'une enclave hôtelière, comme je vous ai montré à propos des Maldives, c'est-à-dire, ou de Taha, c'est-à-dire un lieu strictement réservé aux clients de l'hôtel. Le grain de sable, il provient d'un élément important qui rentre en jeu, c'est finalement le statut des terres dans tous ces lieux. Et c'est par cet exemple-là que j'aborderai cette question. Au Fidji, près 90% quasiment des terres sont coutumières, c'est-à-dire que ce sont des terres qu'on ne peut pas vendre, qui appartiennent à la société, à des clans fidjiens. On peut les louer. On peut les louer, mais par le biais d'un organisme étatique qui va donc rentrer en contact avec l'investisseur. Et en échange, si par exemple un investisseur s'intéresse à une île, il va proposer au clan des emplois. S'il crée un hôtel, il va proposer les gens du clan qui ont cette île seront prioritaires. Alors dans le cas de Mana, bon, les choses se passent normalement au départ, c'est-à-dire qu'il y a un bail qui est signé entre un investisseur australien et le clan et l'État. L'hôtel se construit. On construit un petit village à côté. Ce sont les gens du clan qui viennent de l'île d'en face et qui vont travailler à l'hôtel, donc il faut qu'ils habitent sur place. Et il y a un personnage qui va prendre une importance de plus en plus grande, qui va faire faire évoluer le système de l'enclavement. C'est un personnage qui est une sorte d'intermédiaire entre le clan et l'investisseur. C'est quelqu'un qui a fait des études supérieur, qui parle parfaitement l'anglais et qui va être le relais entre les chefs coutumiers et l'investisseur. Et ce monsieur-là va prendre de plus en plus d'importance parce que, d'abord, il va recruter les gens pour travailler dans son hôtel, dans l'hôtel australien. Ensuite, il va gérer le village. Ça va devenir une sorte de chef de village. Et ensuite, il va petit à petit s'opposer à l'hôtelier. Il va s'opposer à certaines mesures de l'hôtelier. Et ce monsieur va décider que dans le village qu'il contrôle, après avoir court-circuité les chefs coutumiers, il va décider qu'il va monter une structure d'hébergement des backpackers, c'est-à-dire des jeunes qui font du tourisme sac à dos, qui sont très nombreux aux Fidji. Alors ils sont très nombreux aux Fidji parce que les Fidji ont un gros avantage, c'est qu'ils se situent sur ces routes des billets tour du monde que proposent les grandes alliances. Donc, ce monsieur qui s'appelle Ratu Kiniboko, il va ouvrir donc cette structure pour backpackers. Donc vous voyez, c'est pas du tout le confort d'un hôtel international. C'est des dortoirs, il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de piscine, etc. Bon. Et ces backpackers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser tous les services de l'hôtel. Ils vont pas se gêner, même si on leur dit n'allez pas à l'hôtel, vous n'êtes pas client. Ils vont aller consommer au bar, ils vont aller se baigner à la piscine, ils vont utiliser tous les équipements. Et l'hôtelier va mettre en garde Ratu Kiniboko sur ce problème-là, qui n'entendra rien, qui va ouvrir même une deuxième structure. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est une île hôtel qui est divisée en deux aujourd'hui. Donc il y a une barrière avec un portillon, vous voyez, et un contrôle qui est effectué pour surveiller que les backpackers ne passent pas dans la partie hôtelière. Donc l'enclavement, là, si vous voulez, il est un échec, ou on peut le voir comme un redoublement de l'enclavement, puisque il y a un cantonnement d'une partie des touristes à la zone est de l'île. Donc tout cela pour dire que, en fait, ces questions foncières peuvent avoir des effets très importants sur la mise en tourisme. Ici, vous voyez qu'entre les enjeux économiques exogènes et puis les enjeux fonciers endogènes, l'arbitrage, il a été fait sur le mode conflictuel, hein, et il s'est traduit par cette clôture qui est finalement l'aboutissement de ce qu'en anthropologie on appelle l'autonomie des courtiers en développement. Ça a été pas mal étudié par les anthropologues. Souvent, dans les sociétés en Afrique ou dans le Pacifique, vous avez des personnes qui vont, par leurs compétences, notamment linguistiques, vont se transformer en courtiers, en intermédiaire entre le monde occidental et le monde coutumier. Et là, Ratu Kiniboko, c'est véritablement un courtier en développement qui a géré d'une manière conflictuelle ce problème. Bon, deuxième type de contact qu'on peut avoir, donc quatrième partie, les lieux ou les événements touristiques qui amplifient la rencontre. Alors, le cas fidjien, finalement, il nous amène à aborder un exemple qui est presque à l'opposé, hein, c'est l'exemple de la Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, la richesse, la population et la richesse sont concentrées sur Nouméa. Et c'est amplifié par le flux touristique qui, lui, est aussi concentré à Nouméa. La population, c'est 2/3 des habitants habitent dans le Grand Nouméa. Et 80% du PIB, c'est le Grand Nouméa qui le donne. Donc, la volonté des aménageurs, et notamment des deux provinces indépendantistes, que sont les provinces Nord et les provinces des îles de Royauté, c'est que cette richesse, en particulier donc, des touristes, elle se diffuse en Nouvelle-Calédonie, dans tout le territoire, elle irrigue la province Nord et les îles de Royauté, avec, pour enjeu, quelque chose qui est fondamental, mais qui concerne toutes les îles tropicales, c'est de maintenir la population dans leurs îles. Parce que, pour nous, les îles, on les voit comme des lieux idylliques. Ce n'est pas du tout le cas pour les populations qui y habitent. Aujourd'hui encore, les îles se vident. Elles se vident au profit soit des îles capitales, soit des grandes, des grandes métropoles, que ce soit à Sydney, Auckland dans le Pacifique, Amsterdam pour les Antilles néerlandaises, Paris, etc. Miami. Donc on a ce problème fondamental qui est la perte de population des îles. Or, le tourisme est une activité peuplante. C'est une des rares activités qui permet de maintenir une population, voire que la population augmente par l'arrivée de nouvelles personnes. Alors, la stratégie qui a été mise en place pour qu'il y ait une diffusion de la richesse touristique à travers toute la Calédonie, c'est une stratégie assez intéressante. Mise en place par la province Nord. Donc province Nord, province indépendantiste, hein, depuis la création des provinces, donc depuis les accords de Matignon de 88, la province Nord est indépendantiste. On a créé ce qu'on appelait des week-ends découvertes. Il s'agit de proposer sur 2-3 jours à maximum 200 touristes. Il ne faut pas trop de monde parce que les tribus qui accueillent ces touristes ne sont pas très nombreuses. Hein, il ne faut pas qu'il y ait un raz-de-marée. On propose de s'immerger dans la vie de la tribu en accompagnant les Kanaks dans leurs travaux agricoles, en faisant leurs travaux artisanaux. Hein. Donc c'est une immersion dans la société locale. On essaye, si vous voulez, d'amplifier le contact. Hein. Et ça correspond finalement à un double apprentissage. L'apprentissage par le visiteur, par le touriste de la société Kanak et l'apprentissage par les Kanaks de ces étrangers à la peau blanche qu'on voit à la télévision mais qu'on côtoie très peu, hein, compte tenu de la forte ségrégation en Nouvelle-Calédonie qui est plus bien sûr légale mais qui est encore très forte dans les territoires en matière de revenus. Donc il s'agit d'un double apprentissage. Et après le week-end, on fait une sorte de réunion de débriefing et on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On voit les gens dans la tribu qui sont intéressés pour continuer. Ceux qui sont intéressés pour, par exemple, ouvrir un gîte. ceux qui sont intéressés pour faire guide. Et à ce moment-là, on va les aider, on va leur proposer des formations de guide ou des formations pour qu'ils ouvrent un gîte. C'est de cette manière qu'on essaie de diffuser le tourisme dans le milieu tribal, en brousse, comme on dit en Nouvelle-Calédonie, qu'on essaie de donner des revenus à cette population qui est extrêmement marginalisée et très peu monétarisée, à part le trafic du cannabis, qui est aujourd'hui la principale source de monétarisation des tribus en Nouvelle-Calédonie. Dernière partie avant la conclusion, sur les lieux qui mettent en scène la rencontre. Alors, les lieux qui mettent en scène la rencontre, l'exemple le plus probant, c'est la station touristique. La station touristique, c'est un lieu né du tourisme, mais dans lequel vous avez une population locale qui habite. Par exemple, Menton, c'est une station touristique. Quasiment, bon, il y avait un village à Menton avant le tourisme, mais le lieu s'est développé d'une manière considérable avec le tourisme. Il y a des gens qui habitent, il y a des touristes qui viennent. Donc les stations touristiques sont des lieux de brassage de population entre les visiteurs, entre les résidents, entre les gens qui viennent travailler à la saison. C'est des lieux où s'inventent, pour que les touristes restent, où s'inventent, si vous voulez, une sorte de local, de traditionnel. On donne une illusion d'altérité, on va avoir des restaurants pseudo-cuisine locale, des boutiques d'artisanat prétendument locaux, etc., etc. Alors je vais prendre une destination qui ne semble pas être très touristique, mais qui pourtant l'est, c'est l'île de Pâques. L'île de Pâques, il y a 3000 habitants à peu près, 3500 habitants. 3500 habitants, il y a 50 000 touristes par an. Donc vous voyez l'ampleur du tourisme sur l'île de Pâques. Il y a 12 fois plus, 13 fois, 15 fois plus, 14 fois plus de touristes par an que d'habitants. Donc c'est une destination qui est massivement touristique, avec des signes de touristification qui sont très nets. Vous voyez des boutiques de souvenirs, des curios dans la localité principale qui est en Garoa. À côté de la clinique vétérinaire, vous avez des boutiques de paréo, de cartes postales, et vous avez aussi le souvenir touristique qui est partout présent. Sur l'île de Pâques, même si parfois il est made in China. Bon, on a des motifs pascouins, ou bien sûr le moai, le fameux moai qu'on retrouve à peu près partout. Un autre élément dans cette mise en scène, c'est le nourrissage. Alors, le nourrissage, c'est devenu une activité qui s'est diffusée un peu partout. On nourrit des requins, on nourrit des pélicans, on nourrit des raies. Ici, dans le lagon de Bora Bora, qui est une immense piscine, on voit donc un Polynésien qui donc nourrit les raies, et puis les gens peuvent la toucher. La raie vient vous faire un bisou sur l'épaule. Bref, c'est un moment important dans le séjour touristique, que cette rencontre provoquée avec l'écosystème lagonaire. Mais tout ça est bien sûr mis en scène. Alors, juste une petite digression, je sors un peu de la logique inclusion-exclusion pour évoquer un élément important, c'est que plus le lieu est fameux, et plus lieu fameux, coûteux, difficile d'accès sur le plan financier, et plus sa visite correspond à un moment important de la vie des individus. Et le cas de Bora Bora est très intéressant, parce qu'à Bora Bora, regardez, vous avez plus de la moitié des visiteurs italiens, japonais ou espagnols qui viennent à Bora Bora en voyage de noces. Le voyage de noces reste encore, pour certaines destinations insulaire, tropical, un élément fondamental. Alors, le voyage de noces et aussi le moment, le début de la retraite. Donc, ça aussi, c'est un moment important où on voit des gens visiter ces lieux où, finalement, ils se saignent pour y aller. C'est très cher. C'est le voyage d'une vie, si vous voulez. Alors, je referme ma parenthèse sur ce lien entre ce moment particulier d'une vie et puis des lieux exceptionnels. Je referme ma parenthèse, je terminerai sur le cas balinais, parce que le cas balinais est intéressant, et puis il a été étudié par des anthropologues, par des sociologues, par des géographes, d'une manière assez approfondie. Sur le thème de la rencontre, je crois que c'est le cas balinais qui a été le plus étudié. Alors, le cas balinais, les choses commencent très mal à Bali. Vous savez que Bali était colonie néerlandaise. Donc il y a eu une conquête militaire néerlandaise à Bali au milieu du XIXe siècle. Et cette conquête militaire, elle s'est soldée par le suicide rituel de la famille royale et de sa suite. Au total, plusieurs centaines de personnes se sont suicidées. Et ces suicides rituels, ils se sont répétés les décennies suivantes. Alors ça a extrêmement choqué l'administration néerlandaise. Et l'idée des Néerlandais, à la suite de ce bain de sang, ça a été de baliniser Bali. L'objectif a été de baliniser Bali. Alors qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'on a cherché, le colonisateur néerlandais a chercher à apprendre aux balinais à être authentiquement balinais. Pour ensuite présenter les balinais aux occidentaux. Voyant qu'il s'agissait d'une société tout à fait exceptionnelle. Alors comment on a fait? On a dissuadé les étrangers de s'établir dans les villages. Et on a institué un quasi-monopole en matière d'entreprise touristique, c'était géré par l'État néerlandais, par le truchement de ces messageries maritimes. Donc les premiers touristes à Bali, ils arrivent au début du XXe siècle, ils sont totalement encadrés, ils ne peuvent pas aller où ils veulent. Mais à l'indépendance de l'Indonésie, en 1950, les nationalistes ne souhaitent pas du tout que les Balinais restent Balinais. Reste balinais. Pour eux, l'important, c'est que le peuple accède au progrès et à l'éducation. Alors, le tourisme a eu des conséquences très importantes à Bali, parce que Bali, c'est aujourd'hui à peu près 4 millions de touristes. Mais sur ces 4 millions, il y a plus d'Indonésiens que d'étrangers. Il faut bien voir qu'il y a 2,5 millions d'Indonésiens qui viennent à Bali et 1,5 million d'étrangers. Donc c'est une destination qui est plus interne qu'externe. Mais en même temps, ça fait partie d'un des hauts lieux du tourisme international. Alors, l'exode rural s'est arrêté à Bali, fort développement démographique, arrivée de populations de toute l'Indonésie, attirée par l'argent facile. On a accusé, bien sûr, le tourisme de corrompre totalement la société. La société, en particulier la société balinaise. Alors ça, ce discours alarmiste sur le tourisme corrupteur des sociétés, il existe depuis que le tourisme est né. Edgar Aubert de la Rue écrit au début des années 30 que la Polynésie française est totalement envahie par les touristes, qu'il n'y a plus rien d'authentique en Polynésie française. Et quand on regarde les chiffres, il y a 300 touristes par an en Polynésie française à ce moment-là. McKean, qui est un anthropologue, il a beaucoup étudié le cas balinais. Et finalement, ce qu'il a montré, c'est que le tourisme, au contraire des idées reçues, il a relancé l'intérêt des balinais pour bon nombre de leurs traditions. Des traditions qui étaient en passe de disparaître complètement. Il a démontré, finalement, pour lui, l'important, c'est la capacité qu'ont les populations locales à distinguer ce qu'ils font pour le visiteur et ce qu'ils font pour eux-mêmes. Tant qu'ils comprennent que, finalement, quand on fait un spectacle pour les touristes, c'est du spectacle, même si on présente des éléments de sa culture, tant que cette limite est clairement établie dans les esprits, il n'y a pas, pour McKean, danger. Finalement, il y a une mise en scène qui est très nette quand on voit un spectacle touristique, si on reprend une mise en scène au sens de Goffman, le touriste, quand ils voient un spectacle folklorique, des danses par exemple, bon, il n'est quand même pas dupe de ce qui se passe. Il voit arriver le danseur dans son 4x4 avec son casque Dr. Dre et ses Nike aux pieds. Hein. Et finalement, les autochtones se rendent bien compte qu'ils font une représentation tarifée, minutée de leur culture. Donc cette distinction, personne n'est dupe. Alors, je voudrais terminer sur cet élément-là. Ma conclusion, elle est... Le titre est un peu provocateur. Le tourisme, facteur de préservation des cultures locales. Alors, à l'évidence, le tourisme est un formidable transformateur des sociétés. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de tourisme indolore. Il n'y a pas de tourisme sans conséquences. Beaucoup d'anthropologues, au départ, sont restés quelques mois sur leur terrain. Ont compris une photo des sociétés qu'ils étudiaient et ont cru que ces sociétés étaient figées. Et l'anthropologie, une branche de l'anthropologie, a cru que les sociétés traditionnelles, en fait, elles ne bougeaient pas. Les sociétés traditionnelles bougent. Et le tourisme est un moyen, parfois, de redéfinir des identités et là, de forger, finalement, des revendications politiques. Je prendrai l'exemple de Jean-Marie Djibaou. Jean-Marie Djibaou, grand leader indépendantiste néo-calédonien, donc assassiné en 1989 à Ouvéa. Jean-Marie Djibaou a créé, en 1975, un festival qui s'appelait Mélanésia 2000. C'est un festival des arts mélanésiens. C'était un festival, pour lui, c'était le festival du renouveau kanak. Et c'était un festival qui a été conçu dès le départ comme un événement pour les touristes. Le touriste, le festival, la culture des Kanaks est un moyen de revendication face à l'État français. Ce festival, vous voyez une photo de sa quatrième édition en 2010. Ici, donc, on est au centre culturel Djibaou. La culture, les danses, certaines traditions kanak ont été considérées comme un outil que devait véhiculer le touriste montrant l'identité kanak par les indépendantistes et en particulier par Jean-Marie Djibaou qui avait ouvert cette voie culturaliste, on peut dire. Alors aujourd'hui, alors que la culture kanak était totalement invisible dans Nouméa il y a 20 ans, aujourd'hui vous avez des objets... Made in China, relevant de la culture kanak. Ici, ce sont des flèches fêtières. Les flèches fêtières, ce sont les flèches qui sont au fêtage des cases des chefs en Nouvelle-Calédonie. Ça fait partie d'éléments identitaires qui sont promus aujourd'hui, qui sont valorisés et qui intéressent les touristes. Danse polynésienne, danse mélanésienne, multiplication de troupes de danse, tout ça est un élément de revitalisation de certaines sociétés. Et aujourd'hui, quand vous rencontrez des leaders kanak en Nouvelle-Calédonie, tout le monde vous dit « mais notre culture, elle ne tiendra que s'il y a des touristes qui viennent nous voir ». Et effectivement, les districts, les clans qui sont les plus dynamiques, sont les clans où vous avez des troupes de danse qui se sont mises en place, qui recréent. Alors, on ne refait pas ce que faisaient les ancêtres. Il y a véritablement un travail de création. Il y a véritablement un travail de renaissance de la culture kanak au travers de ce qu'on propose aux touristes.
Merci à Jean-Christophe Gay, prochain rendez-vous du cycle Les Îles Laboratoires organisé par l'IRD, samedi 12 octobre, au programme Îles de pêche et pêcheurs des îles Pacifiques par Gilbert David. Il est géographe et directeur de recherche à l'IRD. Les conférences, c'est toujours à l'Alcazar et c'est toujours à 17h le samedi.